Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Marc-André, est-ce qu'il y a quelque chose qui te tente plus dans la vie que d'entendre parler des voitures Mazda qui rouillent?
Honnêtement, je vais peut-être un peu être rabat-joie, mais pas vraiment, parce que je trouve que la compagnie a tellement fait d'efforts dans les dernières années pour améliorer la qualité de ses voitures, puis justement sortir de l'espèce d'image des autos qui rouillent à vue d'œil, parce qu'on va se le dire, ils ont eu ce problème-là, oui. Je l'ai moi-même eu sur ma Mazda 3 2006 qui a été repeinte, non pas une, mais deux fois et qui rouillait quand même. Ils ont tellement fait d'efforts pour se débarrasser de cette image-là, améliorer la qualité de leurs produits, puis chaque fois qu'on met un texte de Mazda sur le site du guide de l'auto, c'est immanquable dans les commentaires, on sait bien ça va tout trouiller. Comme chaque fois qu'on met un texte de Hyundai, on va se faire dire « Ouais, mais la peau née. »
Oui, puis l'usine de Hyundai à Bromont, ben oui, ça fait 40 ans. On peut-tu passer à autre chose? Et concernant les véhicules de la marque Mazda, ben à mon avis, il y a une mise au point qui s'impose parce que la marque s'est embourgeoisée. Ses produits sont de bien meilleure qualité qu'auparavant et ça valait la peine qu'on consacre quelques minutes à ça, Marc-André.
Tu dis que Mazda est en train de faire comme un quartier de Montréal et est en train de se gentrifier?
Oui, on espère juste qu'elles ne seront pas victimes de graffiti.
Et on va partir là-dessus, sur cette analyse de politique savante.
Avec toi, Marc-André, une anecdote savoureuse n'attend pas l'autre. Et dès l'introduction, tu nous as, comme on dit en chinois, teasé. Tu nous as parlé de ta Mazda 3 qui a rouillé plus d'une fois, finalement, parce qu'elle a été repeinte. Donc, avant de parler des produits qui sont, ben, finalement, de meilleure qualité aujourd'hui, on peut peut-être parler des échecs du passé.
Ben, c'est fascinant parce que... Tu sais, c'était une 2006, ma Mazda 3. Là. On s'entend que c'était pas une vieille auto.
Ouais, c'était pas une protégée de la première année.
Non, j'ai eu en 2010. Là. Ouais. Fait qu'on va se dire, l'auto avait 4 ans. Oui. Ça, 4 ans, je m'excuse, une auto c'est censé pouvoir au moins durer jusque-là. Oui. Elle a été achetée dans une concession Mitsubishi de Valleyfield, vendue par mon oncle. Donc, théoriquement, je m'attendais à avoir un produit d'une grande qualité qui avait été savamment inspecté. Mais il avait été transparent avec moi. Il m'a dit, tu sais, ces Mazda 3-là, ils rouillent un peu, hein? Wink, wink. Et elle a été repeinte sous garantie, mais tu sais, ça a bien été fait. Moi, je suis comme, OK, merci. Là, Marc-André de 20 ans part avec sa voiture rouge sport automatique.
C'était une berline avec un aileron. Hein?
Ouais, j'avais le groupe sport. Là. J'avais les bas de caisse. J'avais même l'aileron.
Avais-tu un tatou tribal?
Non, mais ça s'en venait. Écoute, j'ai vraiment honte de
le
dire.
La descente aux enfers.
Non, j'ai vraiment honte de le dire, mais je vais le dire quand même. Là, j'avais mis un collant Transformer en arrière.
Est-ce que tu avais changé le logo pour celui qui imite un peu celui de Batman?
Non, mais j'avais enlevé la badge Mazda 3, le petit 3, pour mettre Mazda Accela.
Ah, comme parce si c'était une voiture importée du Japon.
Ah ouais, j'étais vraiment cool. Tout ça pour dire que j'aimais vraiment la conduite de cette voiture-là. C'était pour moi une auto qui faisait très changement de ma belle ébue qu'elle remplaçait.
Il n'y a rien pour s'améliorer.
Non, effectivement. Cette auto-là, écoute, je l'ai acheté comme au début de l'été, ça allait bien. Puis là, j'ai eu un problème à un moment donné. On arrive à l'automne. Puis qu'est-ce que je me rends pas compte un beau matin? Des bulles dans la porte. Mais pas des bulles comme de savon, whatever.
Non,
bulles
non,
de
des bulles. Ça rouillait par en dedans.
Ah, c'était épouvantable. Puis là, j'avais rappelé le concessionnaire Mitsubishi où j'ai acheté l'auto. Mon oncle était plus là. Fait qu'il pouvait plus m'aider. Mais il m'a quand même référé à la personne. Ils m'ont dit, ouais, mais ça a été réparé chez Mazda. Faut que tu rappelles Mazda. J'ai appelé le concessionnaire. Ils m'ont référé au siège social. Et ça, c'était avant que j'aille les gros bras d'un journaliste automobile plein de contacts, hein. Fait que je pesais pas très lourd chez Mazda, hein. Un jeune qui venait de payer comme 12 000 $ pour un char jaché qui arrive, qui dit, ouais, mon char rouille encore. C'est pas normal.
Et on me dit, alors, que tu ne devais clairement pas être le seul propriétaire d'une Mazda 3 usagée de 4 ans qui était insatisfait de la qualité de peinture et de tôle de sa voiture.
Non. Finalement, on avait essayé de la réparer nous-mêmes. On avait sablé et tout. Non, tu ris, mais ça avait été...
Marc-André, le bricoleur!
Non, ça avait été bien fait. J'avais acheté de la poterie.
J'ai déjà essayé de faire la même chose sur une Sentra. Le résultat a duré quelques semaines.
Ouais, finalement...
La roue est revenue là aussi vite que... Ah, ça n'a aucun bon sens.
Je sais pas ce qui qu'ils mettent dans le métal. Je sais pas si c'est parce que l'acier japonais qui est pas habitué au sel québécois. Je sais pas c'est quoi le problème. Mais mon Dieu que ces autos-là rouillaient. Et quand je m'en suis débarrassé, pour moi, dans ma tête, c'était clair. Mazda, c'est une compagnie qui font des chars cool à conduire, mais c'est du vidange. Je vais pas vraiment parler, là.
Oui, et ça, personne ne l'a jamais remis en question, ce côté-là plaisant à conduire. C'était valable pour la 3. Bon, évidemment, la MX-5, la Miata, ça, c'était indiscutable. Même la Mazda 6, il y avait des versions Speed, il y avait des versions à moteur V6. Ouais. Donc, c'était des voitures qui étaient destinées à des gens qui aimaient la conduite. Et ces gens-là, ben ils aimaient les produits Mazda. Mais malheureusement, tout ce qui était assemblage, vieillissement prématuré de la carrosserie, la corrosion qui sautait là-dessus comme le diable dans l'eau bénite.
Je sais pas si c'est ça l'expression, mais OK.
Et à cette époque-là, on se rappellera que les Mazda étaient très, très, très populaires au Québec. Bon, la Mazda Protégée, la Protégée 5, c'était des belles histoires à succès au Québec.
Ben oui, quand tu dis
quand on est arrivé en 2004 avec la Mazda 3, ça aussi, ça a été extrêmement révolutionnaire. On en a vendu à la tonne. C'était beau, bon, pas cher. Mais on s'est vite rendu compte, finalement, que ben ces voitures-là rouillaient. Donc, comme il s'en est vendu énormément, on les a vus longtemps rouiller et beaucoup de consommateurs québécois ont été témoins de ce vieillissement-là qui était prématuré et l'image, ben, ça reste dans la tête des consommateurs et donc Mazda. Et là, bon, si on regarde, là, exemple, une Mazda 3 2014, par exemple, donc une voiture qui a 7 ans, ben, elle sera pas plus rouillée qu'une Sentra ou une Jetta, par exemple. Donc, ces problèmes-là de corrosion prématurée et de corrosion répandue sur la voiture parce que il y avait pas un pouce carré de tôle qui n'était pas rouillée, ben, on ne les retrouve plus, ces problèmes-là de corrosion généralisée.
Puis même à l'époque où Mazda était au pire de son niveau en termes de rouille, là, donc, mon père, pour me consoler, me voulait relativiser, me dit, tu sais, Marc-André, quand j'étais jeune, dans Hochelaga Maisonneuve, c'est la rue Darling, ouais, où c'était la misère noire, son voisin avait supposément un Charger RT. Grosse misère, hein? Mais bon.
Pis, ça dépend. Un Charger RT 68, en 82, c'était un peu la misère.
C'était genre
il y avait plus d'elle, il y avait plus rien.
Mais c'est ça qu'elle a dit. Il dit, tu sais, le gars parquait ça l'hiver, il l'avait acheté neuf, même. Okay. Deux hivers après, c'était un tas de rouille ambulant. Puis deux autres hivers après, il était à la casse parce que ouais, le taux était fini. Fait que, tu sais, même si ton auto rouille un peu, ça n'a rien à voir ce que c'était avant. Ça, je peux comprendre en même temps que les gens étaient surpris de voir que, tu sais, les Mazda 3 2004 de base, les beiges sable, là, on les a tous vus rouiller, ces chars-là.
Ouais, les mauves aussi, le bleu, violet, quasiment.
J'aime cette couleur-là. C'est plate qu'il l'avait pas refait. Mais bon. Ah oui, on les a vus rouiller.
C'est questionnable, là. C'était pas très beau.
Ce qui était pas très beau, je vais te dire, c'est comment le train avant de la Mazda Speed 3 à l'époque, réussissait à contrôler ou, dans ce cas-ci, ne pas contrôler la puissance qu'elle avait. Ça, c'était pas très beau de voir une voiture qui était pas finie. Quand tu dis que les gens qui achetaient ça devaient changer les supports à moteur pour arriver à avoir des performances correctes, là, c'est ça qui est ça. Fait que tu vois, je pense que ça démontre que Mazda essayait beaucoup de choses.
Ouais.
Mais en même temps, c'est arrivé toute cette histoire de rouille-là à une époque, puis ça, les gens ne savent peut-être pas. Tu sais, Ford a déjà comme eu Mazda sans l'avoir, là.
Effectivement, on travaillait conjointement. Bon, il y a des exemples qui sont assez flagrants. La camionnette Ranger et la série B de Mazda, ouais, c'était le même
le
véhicule.
Le Tribute, hein?
Le Tribute et l'Escape, bon, ce ne sont que, ouais, que quelques
exemples.
Mais
même exemples. La Focus et la Mazda 3 de ces époques
avaient des composantes, ouais, communes.
Et là, tu vois, quand Ford s'est retiré du partenariat, ça a vraiment, mais vraiment mis Mazda dans
ça
le
pétrin. Map.
Non, mais dans le pétrin, financièrement, en fait.
Oui, mais on s'est mis rond, à produire là des véhicules qui étaient ensuite.
Étonnamment, ben on dit ça. Ça, c'est relatif. Ensuite. Mais tu sais, ils ont fait la RX-8, qui, même si Ford voulait pas vraiment, ils ont fini par la faire. Puis eux, ils disent que c'est ça qui leur a permis de s'affirmer puis rester où ils sont. Cela dit, tu penses que ce partenariat n'a pas aidé. Mais là, on est loin de ça aujourd'hui, hein?
Oui, et quand on parle de véhicules qui ne rouillent plus, bon, ça, c'était un premier pas de fait, un premier pas, une première étape qui a été accomplie. Et l'autre étape, c'est l'embourgeoisement. Parce que, bon, on s'entend, on peut pas essayer de vendre un véhicule à gros prix, entre guillemets, et de le voir rouiller dans la seconde qui suit. Donc, la première étape, c'était de régler pas mal les ennuis de corrosion. Et par la suite, ben, on a entamé l'embourgeoisement de la marque. Et ça a débuté, Marc-André, je ne sais pas si tu t'en rappelles, en 2016, si ma mémoire est bonne. Oui. Donc, avec le Mazda CX-9, on a lancé une version signature. Donc, le Mazda CX-9, véhicule utilitaire sport intermédiaire à trois rangées. Et à ce moment-là, on a offert une version haut de gamme du Mazda CX-9. 2019. Je me rappelle qu'à ce moment-là, c'était assez peu convaincant comme version signature. On avait la même motorisation que la version de base, par exemple. On avait un intérieur, bon, qu'on un peu mieux fini. C'était un peu mieux équipé, oui, mais rien pour écrire à sa mère. Mais
encore aujourd'hui,
on avait jeté les bases de ce qu'on a aujourd'hui, finalement.
Tu viens de le dire parce que je me rappelle d'avoir été dans ces coins-là, là, un événement, si ma mémoire est bonne, là, à San Diego, pour le lancement du CX-5 Signature.
Oui, ben voilà.
Et c'était particulier parce que on arrive le matin, puis dehors, il y avait aligné des Mercedes, des BMW, des Acura.
Et voilà.
Là, je suis comme, c'est quoi que ça fait là? Ils disent, ah, c'est pour que vous compariez les deux véhicules parce que vous allez voir notre CX-5 Signature.
Oui.
Qui, en plus, le CX-5, en général, venait d'être modifié pour être plus raffiné et tout en conduite. Vous allez voir que ça se rapproche beaucoup. Puis moi, j'étais ultra sceptique. Je venais de passer la journée, tu sais, à conduire dans des belles routes de Californie avec le taux, mais je suis comme, ben là, voyons. Fait que là, j'embarque dans les voitures, puis je suis comme, ils ont pas tort. Quand ils essaient, back à back, là, ce nouveau CX-5-là qui avait embourgeoisé, comme tu dis, ben, il faisait le travail.
Puis la réalité, c'est qu'un CX-5, par exemple, en version de base, va être mieux fini et va présenter un habitacle un peu plus sexy, comme on pourrait dire, qu'un Forester de base, par exemple,
oh,
ou même un RAV4 de base.
Oui.
Mais quand on monte dans la gamme d'un même modèle, donc quand on monte dans la gamme d'un CX-5, ben effectivement, on a de quoi concurrencer certains véhicules dans des marques un peu plus luxueuses. Puis tu mentionnais le RDX, tu mentionnais Mercedes avec, peu importe...
Oui, il y avait un GLA à l'époque.
Un GLA ou même un GLC de base, par exemple, et on est dans la même gamme de prix. Donc si on regarde le Mazda CX-5 dans sa version de base, bon, on a deux roues motrices avant et le moteur 2.5 atmosphérique, donc c'est rien de trop épatant, mais quand on monte justement dans la gamme, puis on va vers une version GT signature, oui, on a une facture salée à près de 45 000 $, mais on a un moteur de 250 chevaux, 320 livres-pieds de couple en utilisant de l'essence d'octane 93. Mais toujours est-il qu'on a une machine franchement très intéressante entre les mains, alors que pour le même prix, ben, chez Mercedes, on va avoir effectivement un véhicule plus petit, moins équipé, moins puissant, parce qu'on va avoir le 2 litres turbo. Là.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Depuis que Mazda a commencé à mettre ce moteur-là qui avait été développé originalement pour le CX-9, parce qu'il remplaçait le V6 Ford de 3,7 litres qui buvait de l'essence comme ça.
Igloo.
La première fois que j'ai eu un CX-9 à l'essai, j'avais fait 17,5 litres au 100.
Bon.
Puis ça, c'est une autre affaire. Chaque fois qu'on écrivait un article...
C'est la dernière fois que t'empruntais un 20 à tes parents?
Écoute, c'était chaque fois qu'on a essayé une voiture et qu'on publie une consommation d'essence, t'as toujours un gars un peu étrange.
Moi, avec le vent,
au 100 sur l'autoroute. Puis
moi, avec un RAM 1500 et demi 4x4, je fais 8 litres et demi, ben oui, en roulant à 102, le vent dans le dos, en descendant une côte, en tirant rien, en étant seul à bord. Ben oui.
Consommation instantanée, je suis sûr que ça peut descendre. Faut que
oui, t'as le système
moyenne,
de désactivation des cylindres. Si tu roules à 102 en descendant une côte, tu rouleras pas sur 8 cylindres. C'est normal qu'en consommation instantanée, tu consommes
rien.
Ah
oui, puis du moment qu'il y a une petite côte, tu tombes à 15. Là. Mais, fait que tu sais, ce 2 litres, t'es là quand ils l'ont sorti dans le CX-9. Je le trouvais correct pour un CX-9, mais qui a commencé à le mettre?
5.
Le 2,5 litres turbo. Merci Germain de me ramener à l'ordre. Ce moteur-là, quand ils ont commencé en fait à le mettre dans un paquet de véhicules, le CX-5, maintenant il est là dans le CX-30, dans le Mazda 3, Mazda 6, ça a vraiment démocratisé la puissance au point où je pense qu'on peut s'entendre là-dessus, que tu regardes une Mazda 3, un CX-30, un CX-5, les versions toutes équipées avec ce moteur-là,
ouais.
Si tu les compares directement avec les voitures allemandes comme de luxe, Audi, BMW, Mercedes, ça commence à être difficile de justifier payer 10 000 $ de plus.
Absolument.
Pour acheter la Mercedes qui va être moins puissante en bout de ligne, moins bien équipée et moins le fun à conduire, malheureusement.
Absolument. Et beaucoup de gens vont regarder la facture d'une Mazda 3, justement, à 4 roues motrices avec le moteur turbo et, bon, vont voir que ça coûte finalement pas loin de 35 000 $ et on va se dire, mon Dieu, c'est juste une voiture compacte parce que quand on regarde l'échelle de prix d'une Mazda 3 à sa sortie, donc en 2004, c'était 16 000 $ pour le prix de base. Ouais. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'anormal, mais le prix plafond était de 21 000. Donc, on a vraiment transporté la Mazda 3. Comment dire? On l'a...
On l'a poussé vers de nouveaux sommets.
Oui, exactement. Donc, on l'a fait pousser vers une gamme un peu plus élevée. L'avenir dira à Mazda si c'est quelque chose d'intéressant. Une chose est sûre, comme à l'échelle mondiale, Mazda n'est pas un très grand constructeur. Non. Oui, au Québec, on voit beaucoup de Mazda, mais à l'échelle mondiale, ça n'a rien à voir avec des groupes comme Toyota, Volkswagen ou même Stellantis, là, par exemple. Donc, de produire des véhicules peut-être un petit peu plus niché, mais sur lesquels le constructeur fait un profit un peu plus intéressant, mais ça peut être une stratégie qui peut s'avérer elle-même intéressante. Et c'est drôle, ça me fait un petit peu penser à une tangente qu'essayait de prendre Volkswagen à une certaine époque. Donc, de se positionner, oui, en bas de Mercedes, Audi, BMW, mais tout de même en haut de Honda, Toyota et compagnie. Et j'ai l'impression que c'est ce que Mazda tente de recréer. Reste à voir si on aura droit à une Phaeton chez Mazda. On rigole, bien sûr.
Ouais, on rigole parce qu'en ce moment, tu sais, aux États-Unis, ça fait des années et des années que Mazda vend moins de voitures que Mercedes-Benz. À l'échelle même canadienne, les ventes de Mazda, tu sais, c'est plus que c'était.
Non.
La Mazda 3.
Non, mais si on fait plus d'argent par véhicule.
Ben oui,
voilà.
En bout de ligne, ils vont se racheter comme ça. Puis, tu sais, on va se le dire réalistement, ça me surprendrait pas que dans 10 ans, Mazda ait été acheté par quelqu'un d'autre. Je dis pas qu'ils vont arrêter d'exister. Je dis juste qu'ils vont appartenir à quelqu'un d'autre parce que.
Tu
peux pas, ouais, probablement, ils travaillent déjà beaucoup ensemble. Tu peux pas survivre seul. Tu sais, quand ton surnom, c'est la puce d'Hiroshima, là.
Ouais.
Tu peux pas survivre dans un monde où, comme tu dis, t'as tous ces gros groupes-là. Et de voir que Mazda veut s'en dimancher, c'est particulier parce que ça va être le premier constructeur qui va officiellement se positionner comme du milieu de gamme. Parce que t'as des constructeurs généralistes, t'as Honda, peu importe, t'as des constructeurs de luxe, là, les Lexus, Audi, BMW, blablabla. Puis Mazda, eux, veulent vraiment, à moyen terme, se
aller dans le milieu.
Oui, littéralement. Dire, nous, on va offrir des véhicules un peu plus chers que les Toyota, mais quand, décidément moins chers que les Mercedes. Dans le fond, ils veulent faire ce que Genesis fait, mais peut-être de la bonne manière. C'est-à-dire, on va vraiment y aller avec des produits qui vont être du vrai milieu de gamme. Là. C'est-à-dire, meilleur que le bas de gamme, puis compétitif avec le haut de gamme, mais moins cher. Hey Germain, notre réalisateur, il a une question intelligente pour une fois.
Ah bon, on va mettre un X sur le calendrier.
Écoute, il nous demande, là, c'est vraiment une bonne question. Si on voulait acheter une Mazda d'occasion,
oui.
Est-ce que ça vaut la peine quand on considère qu'en ce moment, ils sont vraiment en train d'avoir une genre de renaissance, tous leurs produits sont en train de s'améliorer et tout? Est-ce que ça vaut la peine d'acheter une Mazda d'occasion ou on est mieux de mettre peut-être plus d'argent pour acheter un produit neuf?
Ben, c'est sûr que si tu me disais que tu voulais t'acheter à moins de 1000 $ par exemple, une Mazda 3 qui aurait 15 ans, je pense pas que c'est l'achat du siècle. Cela dit, si tu regardes une Mazda 3 de troisième génération, donc un modèle 2014 et plus, ah, ben là, c'est un peu plus de bon sens. Des véhicules, effectivement, un petit peu plus solide, un peu mieux assemblé et on se trompe un peu moins en achetant ça. La Mazda 6 aussi, donc une berline intermédiaire, il y a peu de gens qui recherchent ça, donc ça déprécie, entre guillemets, assez vite, mais c'est une voiture spacieuse, une voiture plaisante à conduire et comme elle est moins recherchée que les Accord et Camry, par exemple, ben, on peut en obtenir, on peut concrétiser de bonnes affaires.
Je ne saurais mieux dire.
Soulevait la question de quoi aura l'air Mazda dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est pas très clair. À l'heure où on se parle, il n'y a aucun véhicule hybride au sein de la gamme Mazda. On nous promet un véhicule électrique, le MX-30, qu'on attend pour le moment. Le pas vers un avenir qui serait vert est assez timide chez Mazda. Donc, bien hâte de voir comment ce manufacturier-là va évoluer. Une chose est certaine, le premier pas dans la direction des produits un peu plus haut de gamme semble réussir. réussi parce que comprendre le volant autant d'un CX-5 dans sa version GT signature, autant qu'une Mazda 3 à moteur turbo avec 4 roues motrices, que le CX-30 qu'on aura la chance de conduire très prochainement, ben c'est des produits qui sont convaincants sur papier, c'est des produits qui ont une approche très 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 sérieuse. Restera à voir comment ça évoluera, mais mon instinct et mon flair me donnent une bonne impression.
Ben, le mien est d'accord avec le tien, surtout si un gros partenaire financier peut finalement arriver dans le décor, leur donner l'argent qu'ils ont besoin pour faire les recherches et le développement, là, pour sortir plus de véhicules verts, entre guillemets, électriques, hybrides rechargeables, etc. Ils vont être corrects parce qu'écoute, même quand on regarde Jeep, une compagnie qui est riche comme Crésus, tout le temps que ça leur a pris pour en venir à développer des voitures hybrides puis électriques, ça a été long, là. Fait que tu sais, imagine un joueur qui a pas les revenus de Jeep en plus, c'est pas évident. Mais au final, je pense que tu sais, les gens de Mazda, c'est des gens passionnés. Là, j'ai eu la chance de visiter leur usine, de rencontrer des ingénieurs, des designers. C'est des gars qui trippent sur ce qu'ils font, c'est des femmes qui trippent sur ce qu'ils font. Et ça paraît.
Et c'est le cas même à l'échelle nationale. Là.
Ouais, même l'équipe qu'on est ici, on voit que c'est des gens qui aiment. Tu sais,
c'est des gens qui possèdent des Miata, c'est des gens qui possèdent des Mazda Speed d'anciennes générations.
Ou qui ont fait de la course. Ouais. La chef relationniste de Mazda Canada, Sandra, on la salue si elle nous écoute. Tu sais, c'est de la moto, c'est de la course et tout. C'est des gens qui ont ça dans le sang, là. Donc, ça peut juste bien aller.
Merci d'avoir été des nôtres. C'était Marc-André Gauthier et moi-même à l'animation Germain Goyer.
C'était Philippe Séguin au montage, à la réalisation et à la musique.
C'était une production Cube Radio.